Je suis avec le coach de la Team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Paris, par exemple, n'était jamais la ville de foot. C'est toujours Marseille.
J'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. Et ça, ça va pas.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
L'after foot comme tous les soirs jusqu'à minuit sur RMC avec Stéphane Guy, Daniel Riolo, notre invité Sidney Govou à l'occasion de la sortie de son livre Gagner, ce n'est pas normal avec Edouard G. Sidney, c'est parti. Les entraîneurs de Sidney Govou. 6 à l'OL.
Vous allez vous régaler à lire ce livre, hein, au-delà du débat qui va maintenant nous occuper. Non, parce qu'il y a tellement de livres, il faut le dire, hein, de footeux qui sont
d'un
grand intérêt. Celui-là, au moins, on apprend des choses. C'est vivant, quoi.
Énormément.
C'est vrai.
En plus, on les lit tous, donc on sait. Ouais.
Sur la grande époque d'un grand club français, qui plus est. 6 coachs à Lyon, donc je les rappelle, hein, Bernard Lacombe à tes débuts, ouais. Jacques Santini 2000-2002, Paul Le Guen 2002-2005. Gérard Rouillet 2005-2007, Alain Perrin 2007-2008 et Claude Puel 2008-2010. Donc tu en mets, avant qu'on entre dans le détail des coachs, hein, tu en mets un au-dessus des autres. Tu écris Jacques Santini est l'un des tacticiens français avec Raymond Domenech à connaître le mieux le football.
Je le pense. Je pense qu'ils connaissent très bien le football, mais ils ont un problème tous les deux, c'est dans la communication.
C'est pas le même problème
de communication, mais je pense qu'il y a un problème de communication. Parce que quand tu discutes, moi j'ai discuté avec les deux, avec beaucoup de coachs, en off, pour t'expliquer un schéma tactique, mais vraiment en off, c'est simple, c'est éclairé.
Ah, dans ces cas-là, il faut qu'il fasse consultant alors, il ne faut pas qu'il fasse entraîneur alors.
Alors, je ne sais pas.
Si je me suis expliqué un schéma tactique, c'est pas du tout la même chose. Schéma tactique, tu prends n'importe quel mec qui a un diplôme, il va t'expliquer.
Non, je ne suis pas d'accord avec toi.
Vas-y, Sidney.
Tu peux me dire, un schéma tactique, il y a des façons de l'expliquer. Il y a des coachs, j'ai connu d'autres coachs, ils vont t'expliquer un schéma tactique, tu ressors le truc, tu ne comprends rien. Tu as du mal à comprendre déjà ce que tu dois faire. C'est ce que je veux dire en schéma tactique. C'est-à-dire que ton rôle, avec ces deux coachs, il est identifié, mais très clairement, mais en off. Après, je conçois qu'à un moment donné, quand tu les écoutes parler un peu plus à voix haute, ça devient beaucoup plus compliqué pour Jacques. Pour Raymond, c'est parce que vous. C'est sa communication qui est désastreuse avec les journalistes. C'est pas autre chose.
C'est pas la communication qui est désastreuse. Si. Mais non, c'est pas la communication. Si. C'est le fossoyeur du football français.
Non.
C'est l'homme qui a massacré le football français pendant 20 ans.
Non, il a
tous les résultats.
Non.
Toute la façon dont les entraîneurs français ont été formés, c'est lui. Il a massacré toute évolution des entraîneurs français. Toute la pensée footballistique. Personne n'avait le droit de penser différemment quand il était au poste qu'il a occupé. Il a occupé tous les postes du football français dans un moment où le football français n'a pas avancé, n'a pas réfléchi. Son espèce de prétention faussement intellectuelle, je le répète, a fait de lui le fossoyeur du football français.
Il a
réussi nulle part. Jamais un président, jamais un club n'ont voulu de lui. En équipe de France, je suis désolé, c'est les gens qui étaient avec toi, dans le vestiaire, avec toi. Donc tu pourras dire le contraire. Mais ceux qui étaient avec toi, dans le vestiaire, ont toujours dit qu'il avait eu un rôle réduit à néant à partir des huitièmes de finale en 2006. C'est des gens qui étaient avec toi dans le vestiaire.
Ça, tu l'écris également. Personne n'a respecté ses consignes en 2006.
Je suis d'accord, moi je l'ai dit.
Ah oui.
Je dis pas que c'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que c'est un bon entraîneur à un moment donné?
Un bon entraîneur,
c'est pas le mec qui va vous faire une conférence de presse extraordinaire, qui vous expliquait par A plus B que.
Ah bah lui, pourquoi... il en faisait d'extraordinaire.
Mais oui, il en faisait, mais justement, ça vous mettait en rogne parce qu'il disait rien à ce moment-là. C'est là. Moi, un bon entraîneur, c'est le mec qui arrive dans son vestiaire, il identifie ce dont il a besoin pour gagner, ce dont son équipe a besoin pour gagner. Soit c'est de parler, soit c'est de pas parler. J'ai connu Alain Perrin, à un moment donné, quand il arrive à Lyon, très rapidement, tu sens que ça va pas le faire.
Pourquoi?
Parce qu'il chambrait un peu les joueurs, parce que nous on était peut-être un peu des enfants pourris gâtés à ce moment-là, parce que nous on aimait pas ça.
C'est possible aussi qu'à un moment, quand il sort 2-3 vannes, que vous le prenez mal.
Oui, voilà.
Et que d'entrée,
c'est pas
vous
si dur que ça d'ailleurs avec lui dans le livre.
Non, parce que j'aime bien.
Tu reconnais des choses avec le recul. Tu te dis finalement, c'était un personnage assez.
Il était singulier. Mais ce que j'ai aimé chez le coach, c'est qu'à un moment donné, il a vu aussi que ça allait être compliqué pour lui. Il a dit, de toute façon, mon rôle, j'ai vite compris que c'était de vous laissez tranquille. Il y avait Galette, Christophe Galtier, qui était là, qui faisait le boulot tous les jours, etc. Lui, il avait que son rôle, c'était mettre son équipe. Et bon, on va dire qu'il avait de la chance, on était assez autonome. Mais c'est aussi une qualité d'un entraîneur de reconnaître ça. Parce que, de la même manière, j'ai connu Puel qui arrive dans un groupe qui est hyper étoffé et qui, lui, veut tactiquement nous révolutionner l'histoire. Trop dur. On n'était pas prêts. Alors, je ne dis pas qu'on avait raison. Je pense qu'il fallait aussi changer. Il y a des choses qui se passaient très mal. Mais la manière dont il
a
fait
passer son message,
voilà,
comme
c'est,
il fallait.
C'est pas possible. Et moi, un bon entraîneur, c'est ça. C'est le mec qui arrive finalement à te faire passer un message pour que tu gagnes.
Mais quel message il a fait passer en Afrique du Sud, Domenech?
Bah là, oui, bah, tu peux tromper.
Ah bah là, c'est pas trompé. C'est le plus gros scandale du football français.
Et ben voilà,
et c'est pas là, on parle même pas de tromper, là, on parle de, on parle d'une catastrophe.
Ça veut pas dire que toute ta vie, t'as été mauvais.
Ah bah lui, en l'occurrence, je sais pas quand il a été bon, là.
Bah moi, je dis que quand
je sais pas à quel moment il était bon. Avec les espoirs, ça a été échec sur échec.
Avec qui a réussi derrière?
Hein?
Qui a réussi derrière en espoir?
Sport, c'est hyper mais ça c'est normal. C'est le système que lui a mis en place.
Ah, mais alors,
le système que lui a mis en place, ça fait qu'ils ont mis que des mecs du Serra qui est encore plus mauvais que lui.
La problématique que tu es en train d'expliquer, c'est moi je te parle de rôle d'entraîneur. Je te parle pas de mec qui est en train de mettre en place.
Toi, tu parles du rapport de entraîneur à joueur. Ton rapport de joueur à Domenech.
Lui à la tête des Bleus soutenu par Noël Le Graët après 2008 et la campagne catastrophique où il termine sur une interview bord terrain qui est même pas digne de vidéo gag. Dans la foulée, il va en Afrique du Sud. C'est le plus gros scandale du football français. Moi, j'ai toujours qu'on ait de l'affection pour les gens pour un quelconque motif.
Je peux tout à fait comprendre. Il aurait des compétences tactiques.
Moi, je peux comprendre. Mais derrière,
en plus, oui,
je parle quasiment jamais. J'ai eu pendant plusieurs années.
Quasiment jamais parlé. Donc c'est un rapport d'entraîné à entraîneur.
Il me disait, toi, j'ai pas besoin de te parler. Je sais que je le dis une fois, tu vas le comprendre. Basta. Il m'avait identifié et ça se finissait là. J'ai pas de relation particulière avec Domenech. Tout le monde m'a dit, ouais, t'étais le fils de Domenech. Mais pas du tout.
Il a pas eu à Lyon, déjà. Ce que beaucoup imaginent, il a jamais eu à Lyon.
Pas du tout. Après, là où je te rejoins, Daniel, c'est vrai que le système fédéral dont on forme les entraîneurs, pour l'avoir pratiqué, je trouve qu'il est, voilà, il est plus que
il l'a mis en place. Donné. Non, puis Nice-Nas,
bah, c'est mis en place.
Vous voulez aller maintenant sur Nice-Nas?
On entend parler de foot, sa vision du foot.
Mais il le fait exprès. Arrêtez, vous avez bien compris.
Ah bah donc il va, donc l'équipe emploie.
C'est interdit, alors que vous êtes dans une mission de service national, c'est mission de service public.
Je suis pas là pour
le droit de prendre les autres. On peut pas prendre les gens en otage.
Mais normalement, donc t'es en train de me dire que quand il est sur le plateau de l'équipe qui le prend comme consultant, il se fout de la gueule des gens parce que c'est ce qu'il fait. Il veut jouer la provoque.
Mais donc il a pas le droit.
Obligé de l'écouter. La différence, Daniel, c'est quand il est sur l'équipe TV, tu peux zapper très vite et très bien et le faire heureusement.
C'est vrai,
il est à la tête de l'équipe de France, il est à la tête d'une institution nationale.
Mais c'est pas ça. Mais il est comme ça. C'est les gens qui l'ont mis en place à un moment donné.
Et qui l'ont défendu. Noël Le Graët.
C'est parce que c'est des mecs qui l'ont défendu. C'est pas mon problème. C'est les mecs, ils étaient contents qu'ils soient là.
Voilà, pour Raymond Domenech, on peut passer à un autre entraîneur lyonnais. Bah, on a eu un débat récemment.
Alors, Paul Legouen,
où Daniel me disait, et j'ai dit, donc je parle sous ton contrôle, que d'abord, donc il avait servi à rien, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que les à Lyon, ça marchait tout seul, et que deuxièmement, les joueurs n'en pouvaient plus. Donc, tu m'as dit que les joueurs, t'ont dit à toi de témoignages qui servaient à rien.
Non,
c'est pas si, Daniel. C'est ce que tu m'as dit.
Je t'ai dit qu'il s'était brouillé avec tous les anciens potes à lui du PSG de l'époque. Pas les joueurs de Lyon.
D'accord.
Je peux te dire qu'il ne servait à rien, que Lyon c'était une Ferrari qui marchait toute seule, c'est une Formule 1. C'est Aulas qui le disait. Je te ressortirai jamais publiquement, sauf si un jour tu me pousses à bout la phrase qu'Aulas avait dite sur lui, parce que c'est trop dur. Mais pas que les joueurs n'en pouvaient plus. Alors ça, jamais de la vie. Ça,
alors vraiment, réponse, Sydney.
Déjà, non, tu peux pas dire qu'il a servi à rien parce que d'une part, il a fait la transition entre le premier titre et le deuxième et c'était très compliqué parce que tu avais beaucoup d'anciens qui étaient un peu sur la fin et lui assez rapidement, il a dit je veux pas partir avec certains. C'était compliqué de mettre Fivelo sur le banc, c'était compliqué de se séparer de Sonny, c'était compliqué de Flo Lally.
Il te donner le brassard de capitaine également alors que la direction voulait soit
Johnny, etc. C'est très compliqué. Donc il a fait déjà des choix forts, donc ça a mis un an. Et après, il a décidé de repartir sur un certain groupe de joueurs, une certaine forme de joueurs. C'est pour ça que je te dis, ça reste un bon entraîneur. C'est de l'intelligence. Il dit, moi, je veux manager 16 mecs plus 3 jeunes. Voilà, il l'a dit. Le président n'a jamais été d'accord. C'est pour ça que tu dis, le président parle. Il est un peu fâché contre lui parce que le président voulait toujours lui mettre un numéro 9 de grande qualité dans son équipe. Il n'a jamais voulu. C'est là où je pense que les deux, il y avait un problème.
Parce que toi, Paul... tu dis à la fin que quand il part, donc non, c'est lui qui décide de partir, mais que non, les joueurs vont voir de l'as pour qu'il le convainque de rester.
Avant, nous, ouais, on demande au coach de rester.
C'est quand même pas rien, ça, dans un club.
On demande au coach de rester.
C'est rare, moi, j'ai jamais entendu ça.
Le dernier entraînement qu'on fait avant qu'il parte, décide de partir. On est à Gerland. On fait notre dernier entraînement. Bon, comme on est un peu fou dans cette équipe, on a mis des masques, on faisait des cons en sortant à l'entraînement. Et on va voir le coach avant. Et on lui demande de rester. Abby avait mimé même sa dernière causerie. Abby a fait la causerie.
Quand tu dis on, c'est qui?
Toute l'équipe. On a été voir le coach. Non, coach restait. Mais il a pris sa décision. Il n'en pouvait plus. Mais ça brouille avec Olas. Je pense qu'elle vient plus de là, où Olas voulait lui imposer de prendre un attaquant.
Olas s'est brouillé avec tous les entraîneurs.
Oui,
le fait d'avoir résisté à Jean-Michel Olas, tous les entraîneurs. Et selon moi, les années 2000, je l'ai décrit comme ça, au-delà de la qualité des joueurs qu'il y avait. Et déjà, c'est pas rien de dire qu'il y avait des bons joueurs parce qu'ils étaient recrutés. Oui. Et c'est parce qu'il y avait un œil pour ça. Et l'homme qui a fait ta préface, même si c'est un type qui a un caractère et un sale caractère,
Bernard Lacombe,
est un type très fort, qui connaît le foot. Je sais qu'il a très peu d'estime pour nous, mais j'en ai rien à foutre parce que moi, je sais reconnaître ses qualités.
On peut aussi reconnaître les qualités professionnelles d'un homme sans avoir beaucoup d'estime pour l'humain qu'il est.
Je pense que son rôle était très important auprès de Jean-Michel Aulas. Je pense que son œil pour détecter le bon joueur ou pas le bon joueur, c'était capital. Et s'il y a eu une différence entre quand il était très actif et quand il l'a été moins dans la qualité des joueurs qui sont venus à l'OL, ça a fait une grande différence. Qu'il y avait des hommes frais, tu l'as dit, tu les connais mieux que moi, qui étaient autour d'Aulas pour pouvoir contre pouvoir. Je pense que tout ça a constitué à faire une équipe au sens large de dirigeants qui était très bonne. Et le rôle de l'entraîneur à l'OL a toujours été moins important. Et Aulas ne voulait pas d'un entraîneur star. Le seul qu'il a pris, qui était un peu différent, c'est Gérard Rouillet, parce qu'il arrivait de Liverpool. Et ça s'est pas trop bien passé, justement, avec les joueurs. Parce qu'il y avait toujours cette histoire. D'abord, Lacombe s'entendait pas avec lui. C'était compliqué. Donc, forcément, ben, quand c'est comme ça, les joueurs le ressentent. Il y a ceux qui étaient proches de Lacombe, forcément, n'aimaient pas Rouillet. Donc, ça a créé des tensions. Moi, je pense que le seul entraîneur de niveau international, c'était lui, que vous avez eu. Dans toutes ces années-là. Les autres.
Pas ton avis, Sylvain, sur ce que j'ai vu dans le bouquin.
Non, c'est justement,
on va pas dire à Rouillet signé dans un instant.
C'est pas son avis,
mais c'est intéressant de savoir ce qu'il signait en pense.
Je vois ce que tu veux dire et quelque part, t'as un peu raison. Mais on était une équipe à un moment donné, c'est l'entraîneur qui nous fallait, c'était Paul Le Guen. Il a monté son équipe pour qu'on soit. Alors, oui, le.
Mais parce que t'avais Olas, parce qu'on a pas fait la Ligue des Champions. Parce que t'avais tous les autres.
Mais Bernard, dans le mode de recrutement, il était fantastique, Bernard, tu le dis très bien.
Mais oui, ça, j'en suis convaincu.
Joueur identifiable, il allait le voir, il discutait. Je sais qu'il y a des joueurs qu'il a été voir, il dit au président non.
Parce que. Oui.
Alors, pour quelle raison? Il faudra qu'il s'explique. Mais il y a des joueurs. Par contre, il y a d'autres joueurs. Quand il va chercher Djilad Diarra, il le suit dans le TGV parce qu'il doit signer à Paris. C'est lui qui dit à Gila, non, il faut que tu viennes à Lyon.
Non, mais Lacombe a été précieux et on le sent assez dans ces années-là.
Que certains, d'autres personnes ne sentent pas.
Il y a un truc, Nico. On fait une pause et tu pourrais y aller dans un instant. Avec Sénégo, vous qui restez avec nous jusqu'à la fin de l'after, jusqu'à minuit, on parlera d'actualité aussi, la Super League, je vous l'ai dit, en fin d'after, de Neymar aussi. Tiens, ton regard sur ce joueur qu'il est, est-ce qu'il te fait rêver? Ou tout à fait l'inverse, mon cher Sidney, tu vas pouvoir en parler avec nous, Daniel. Et Stéphane, dans un instant, vous écoutez RMC, 23h15, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
L'afterfoot RMC, merci d'être avec nous, 23h17. Daniel Riolo, Stéphane Guy, ensemble jusqu'à minuit avec Sine Govou, notre invité ce soir. C'est rare, hein, Daniel, d'avoir un invité pendant 2 heures. Et on se régale.
C'est parce qu'il le mérite.
Merci
beaucoup. Il le mérite. Non, c'est vrai qu'il nous raconte. Très bon client. Hein. Rapidement les scores pour vous dire que Liverpool donc, s'est imposé 1-0. On en parlera tout à l'heure avec Julien Laurence. United s'est terminé du Tottenham 2-0 avec un Cristiano Ronaldo vexé de ne pas entrer en jeu qui a quitté le banc de touche avant la fin du match sans taper la main des gamins qui lui tendaient. On peut le comprendre, il est énervé parfois.
Il est vénère.
Il est bien vénère.
Et, puis, pour Sydney,
et le Real s'est imposé 3-0 avec un but de Benzema sur la pelouse d'Elche. Voilà pour être complet, le Bayern s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe d'Allemagne. Daniel.
Il faut quand même raconter que la semaine dernière, on s'est échangé quelques messages parce que je devais pas être là ce soir. Mais je lui ai dit, Sydney, c'est pas possible, quoi. Ton bouquin, moi, il faut que je sois là.
Daniel a tout fait pour te décaler ta venue.
Je vais me faire changer les jours, mais.
D'ailleurs, pourquoi, Daniel?
Ben, il pouvait pas.
Non, mais toi,
il pouvait pas m'arner.
Pourquoi?
Non,
bah,
pour moi, je pouvais pas. Voilà. De temps en temps,
t'as quand même le droit, t'as quand même le droit de
faire autour d'une table de,
voilà. Moi, j'ai ressenti ça hier. Moi, j'aurais voulu être là hier pour le livre sur les esclaves des.
T'as quand même le droit de temps en temps de poser un soir pour te reposer, ce que je n'ai pas fait depuis la fin de l'été. Mais Sidney, je voulais absolument être là. Je lui ai dit. Il m'a dit, bah, il faut que tu viennes. Et voilà. Donc, je suis là.
Tiens, avant de le dire également, demain, Pablo Longoria, le patron de l'OM, sera dans Rotten sans flamme à écouter son interview. Il sera avec Jérôme, Jean-Louis Tour, notamment. Et Antoine Varnier à la production. Rendez-vous demain, donc, dès 18h sur RMC. Stéphane, je te rends la parole.
Oui, parce qu'on parlait du parcours de Sidney et de l'époque Gérard Houllier. Moi, ce que j'ai découvert dans ce bouquin, parce qu'évidemment, tout ne reste pas en mémoire, quand on parle Sidney Govou en équipe de France, on a tous un flash, et évidemment, ce doublé contre l'Italie après la Coupe du Monde et ce match incroyable que tu fais. Et tu fais ce match alors que tu n'as pas disputé une seule minute de championnat à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est en septembre, t'es à la cave à Lyon, mais vraiment, quand je dis à la cave, et Domenech, c'est peut-être pour ça que tu l'aimes bien, t'appelles malgré tout l'équipe de France, et tu titularises face à l'Italie, et tu fais ton match. Explique, parce que c'est quand même tellement déroutant cette histoire.
Je vais le faire de façon chronologique. Je reviens à Lyon après la Coupe du Monde, on m'annonce que le club me dit, voilà, on veut pas de toi l'année prochaine, bon, écoutez, c'est pas grave.
C'est la deuxième année de Gérard Houllier ?
Oui, c'est
la deuxième année de Gérard Houllier.
On me dit, on veut pas de toi l'année prochaine.
Pourquoi ? On te dit quoi?
Les clubs ont droit de choisir. Il me dit, voilà, on veut prendre quelqu'un à ta place. Bah, ça arrive.
D'accord.
C'est pas la fin du monde. Donc, je lui dis, bah, pas de souci. Donc, je fais quand même la prépa avec le groupe. On arrive en premier match de championnat. Et là, bah, j'étais pas dans le groupe pour faire l'autre match.
Tu cherches un autre club?
Si, je suis en train de chercher. J'ai pas de souci. J'ai eu beaucoup de contacts, mais je suis pas pressé. Dans ma tête, je me dis, je vais trouver. Il y a pas de souci. Donc, je me souviens, c'était la veille du premier match de championnat. Il y a 2-3 blessés. Et le coach me dit, bon, bah, finalement, tu vas venir avec nous. Voilà, bah, poliment, je dis, non, je viens pas, vous m'avez décidé que je jouais pas, donc j'ai décidé que je ne jouerai pas. Il dit, par contre, obligé de jouer avec la réserve. C'est pas grave, je vais avec la réserve, bon, je mets un doublé, je reviens à l'entraînement, je m'entraîne normalement. La semaine d'après, je suis, deuxième match, redoublé avec la réserve. Et là, bah, Robert m'appelle, Robert Duverne, qui était le prépa avec Domenech. Il me dit, t'es bien et tout. Raymond me pose la question, est-ce que si tu viens, tu peux, même si t'as pas joué avec les pros. Je dis, Robert, mais c'est toi qui fais la prépa. C'est ce qui est m'avantagé, en fait. C'est que le prépa physique.
De l'équipe de France, c'était celui de Lyon également.
Et en même temps, tu dois mieux savoir que moi, les Anglais reprennent très tard. Donc, la majorité des joueurs anglais n'avaient pas non plus joué de match.
Mais surtout parce que du monde.
Ils avaient pas joué de match non plus. Donc, j'étais au même niveau que certains qui ont pas joué. Donc, Raymond m'a dit, bon, tu viens. Donc, j'y vais. Donc, je suis encore dans la même situation à Lyon. Et là, à un moment donné, j'ai un gros contact avec Liverpool. Où je dois signer pendant que je suis en équipe de France, ouais, je dois signer. Et bon, malheureusement, le club n'arrive pas à trouver le joueur pour me remplacer, donc fait durer. Et on arrive au 31, c'est fini, et le match face à l'Italie.
Et tu mets un doublé, ton seul doublé en équipe de France. Ouais. Et moment
coach,
incroyable.
Bah, le coach vient me voir la veille, et il va voir Titi. Il dit à Titi, ouais, je crois que Sidney, il est bien et tout, demain je mets titulaire. Et Titi vient me voir, alors pendant l'entraînement, il me dit, ouais, le coach,
Henri, bien sûr.
Il dit, ouais, t'es bien, ouais. Bon, bah, le coach, je te mets titulaire demain. Je dis, bon, pas de problème. Je sais que je suis titulaire. Moi, je me prends pas trop la tête. Par contre, au départ, je sens que je me fais siffler sur l'annonce de mon nom.
Au Stade de France.
Ouais, je l'entends bien. Ouais. Et après, voilà, c'est un match de foot. Voilà, c'est des histoires. Je marque 2 buts. Je rentre à Lyon. Je suis officiellement.
Mais alors? Raconte-nous le retour.
C'est là
où on comprend ce que disait aussi Daniel. C'est extraordinaire parce que on comprend aussi ce qu'est Gérard Houllier et ce qui fait la force Gérard Houllier.
La force, elle dépend si c'est contre toi, c'est ou pas.
Ouais, mais je
rentre à Lyon et bon. Donc
à la cave avant ton départ. Avant ton départ, tu n'existes plus à Lyon.
J'existais pas pour l'OL. Hein.
Donc lui, il ne veut plus de toi non plus finalement. Non. Voilà, c'est
je rentre à Lyon, je vais dans le vestiaire, mais moi je suis surpris. Alors on est tous réunis comme d'habitude. Le coach vient, il fait son discours. Alors par contre, on applaudit Sidney parce qu'il nous a contre l'Italie, machin.
Et d'honneur.
Ah ouais, tous les joueurs se lèvent, applaudissent. Et ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai mal.
Ils savent Gérard Houllier fait donc applaudir le vestiaire.
Pour me dire. Et en même temps, il dit, eh ben, l'autre cru, c'est toi. Et je pense que 2 mois après, ou même pas 1 mois après, je crois que je prolonge.
Mais comment tu vis, toi,
parce que
tu n'oublies pas les semaines précédentes. Comment passer de.
Je peux pas oublier.
C'est ça.
Je peux pas oublier. C'est pour ça que j'aimais pas ce personnage.
Mais c'est une scène qui éclaire ce qu'est le foot, ce qu'on vit tout le temps, parce que on nous dit machin va partir et puis 3 jours après,
c'est le meilleur
comme quoi il prolonge. C'est l'histoire du foot. C'est pour ça que je voulais que tu la racontes en détail.
Houillet était très politique.
Oui, ouais, bien sûr.
Très politique, très homme de réseau, de bureau.
De communication.
De communication.
Très bon.
Il pouvait être à la fois extrêmement brillant et pour certains extrêmement malsain. Il a longtemps été le conseiller un peu occulte de Jean-Michel Aulas, ouais, jusqu'à la fin de sa vie. Nous, ici, on rigolait en disant c'est le conseiller sur le parking, parce que comme il n'avait pas de vrai bureau ou de poste, on se demandait où est-ce qu'il lui donnait des conseils. Et oui, et il a pu... En Angleterre, par exemple, c'est un mec qui est extrêmement respecté. Il arrive dans un stade, les gens se levaient. Liverpool, il a laissé une empreinte vraiment parce qu'il a reconstruit le club. Mais oui, il a eu des ennemis aussi.
Mais le rapport
aussi,
à l'entraîneur en Angleterre est très différent de chez nous.
Exactement. Mais parce qu'il avait, il pouvait avoir ce côté parfois qui pouvait fâcher les gens. D'abord, il avait une certaine opinion de lui-même. Il était un peu prétentieux parce que intellectuellement c'était quelqu'un qui était différent, n'était pas un homme vraiment du sérail. Hein. Mais il
était ce qu'a dit Sidney tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'avait jamais joué au niveau, oui, et qui a gagné la Coupe d'Europe avec Liverpool. Il faut quand même imaginer.
Non,
ce
il
n'a
pas
c'est.
Gagné avec Liverpool. Non,
il a gagné la Coupe d'Europe avec Liverpool. Il a gagné une Coupe d'Europe.
Il a reconstruit Liverpool, vraiment, qui était au fond du trou.
Et on doit aussi dire à nos auditeurs, Daniel, parce qu'on est déjà honnête, qu'on est l'un et l'autre. On a tous les deux. Moi, j'avais des relations amicales avec Jean-Raoul, il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais je connais cette face noire que tu décris.
Non seulement je la connais, mais j'en parle librement, ouais. Et comme tu dis, moi c'était quelqu'un avec qui, parce que j'avais bossé, j'avais de bons rapports, mais je savais, parce que je parlais à beaucoup de gens qui pouvaient parfois être durs, cassants, et que certains ne l'aimaient pas.
Mais ça, dans un même vestiaire, il était aussi bien adoré par certains joueurs que détesté.
C'est vrai.
Pas de demi-mesure à chaque fois.
Et toi, tu le reproches d'avoir été un... Non, tu reconnais que c'était le plus grand communicant que tu as rencontré.
Ah oui, voilà.
Et donc, tu parles un peu d'hypocrisie, finalement.
Mais de la même manière, si je devais...
C'est un peu vrai. Non,
j'ai toujours dit, si je l'entraînerai, je vais copier ce que j'ai aimé sur ses entraîneurs.
Ah bah, dis-nous ce que tu vas copier des uns et des autres.
Lui, ses causeries, elles sont magnifiques. Elles étaient magnifiques.
Ouais, ça, c'est qu'il les travaillait de ouf.
Ah bah oui, il s'est entraîné dans...
Le fond, la forme, tout.
Ah non, mais c'est la causerie.
Tu disais que tu l'entendais répéter à l'hôtel.
Oui, il répétait dans sa chambre.
C'est vrai.
Ça m'est arrivé de... J'ai une anecdote d'ailleurs. Je joue pas le match. Je fais tous les matchs de préparation sa première année, tous les matchs de championnat. On arrive en Ligue des Champions, on joue le Real, donc c'est le match où tu te sens. Ouais. J'ai tout fait, je joue pas. Il me met sur le banc. Bon, on gagne 3-1 et c'est Nino qui joue à ma place. Il marque.
C'est Vilterd.
Ouais, pardon. Il marque. Donc à la fin du match, je suis content, mais bon, je suis un joueur, je suis un compétiteur, je suis quand même énervé. Tu vois, je rentre et il vient me voir, il me dit bon, le match suivant, on doit jouer contre je sais plus qui, une équipe en Ligue 1. Il me dit tu sais quoi, tu vas nous faire gagner ce match-là. Et je rentre chez moi, je suis énervé. Moi, le match, j'ai pas envie de le jouer. On joue le match, je marque 2 buts.
Et t'es capitaine
le week-end.
Non, il n'a pas filé le brassard dans cette fois-là.
C'est peut-être possible, je m'en souviens pas. Mais je sais que je marque 2 buts.
Mais il y a des joueurs qui sont pas tellement. Oui, mais il y a des joueurs qui sont pas tellement sensibles à cette façon de faire. Et je peux comprendre qu'on soit pas sensible à cette façon de faire, tout en communication. Je peux comprendre. On peut ne pas être sensible à ça.
Ça m'a énervé, mais après, à un moment donné où j'ai fait ce match-là, j'avais oublié tout ce qu'il m'a dit, mais en même temps, je me rends compte que j'ai joué le match. Au départ, je promets, j'avais pas envie. J'ai dit non, je vais le boycotter ce match.
Et Lacombe, qui est plus un instinctif qu'un intellectuel et tout, lui, forcément, il pouvait pas s'entendre les deux. Bernard, il y avait un truc. Bernard, il est autrement, il est plus.
Du direct,
Et Claude Puel, c'est encore autre chose, justement. Voilà.
Oui, Claude. Après, je pense que Claude, il est arrivé dans un schéma où le club avait envie de changer, avait envie d'avoir une sorte de manager. Et Claude, c'est quelqu'un qui est...
Qui est trop dur, tu dis, trop dur.
C'est pas trop dur, c'est qu'à un moment donné, il est arrivé dans un système, on lui a dit, il faut tout changer. Mais c'est pour ça que je dis souvent, c'est pas de sa faute.
Et on lui a dit, t'es manager général.
Oui, voilà, en plus. On lui a dit...
La grosse fonction.
Non, mais c'est-à-dire qu'il comptait tout, il a tout chamboulé trop vite. Il a dit, voilà, à Lille, je me souviens des histoires, à Lille, c'était comme ça, à Lille, c'était comme ci, à Lille, c'est comme ça. Ah, je lui ai dit, t'as gagné quoi à Lille, quoi. c'est pas bien. J'avoue que c'est pas bien.
Mais c'était le regard que vous aviez, vous, qui aviez tout gagné. Vous regardiez un mec qui avait jamais rien gagné.
C'est pour ça que des fois.
J'avais été champion avec Monaco quand même.
Avec le recul, je me dis, ouais, peut-être que nous aussi, à ce moment-là, on n'a pas mis du nôtre pour essayer que ça marche correctement.
Ouais, hein.
Mais lui aussi, il est arrivé d'une façon.
C'est ce que j'adore.
Parfois, on arrive au mauvais moment.
C'est trop dur à quel point qu'il te retire le brassard du capitaine.
Oui, parce que j'avais fait une connerie.
T'as fait une connerie, c'est vrai. Et plus tard, il te le redonne.
Ouais.
Et tu le refuses.
Ouais. Parce que. Tu me l'enlèves pour une raison, tu me le redonnes pas 6 mois après quand on est en galère.
Et pourquoi
parce
pas,
que tu t'es
et pourquoi pas
parce
que s'il estime que tu es l'homme de la situation.
Mais Sidney fonctionne pas comme ça. Il y a des gens. Ouais, c'est ça, moi je peux comprendre
la
ça.
La manière dont il me l'a enlevé, ça m'a déplu parce qu'il avait juste à venir me parler, m'expliquer. Et je savais, je l'avais fait. Hein. mais me dire voilà, je te l'enlève parce que, ou je te l'enlève pendant 3-4 fois parce que c'est pas possible que mon capitaine fasse ça.
C'est ça l'avant-veille de Saint-Étienne.
Il m'a rien dit. Il a fait la causerie. Il a dit tu seras plus capitaine. Par contre, pour être sur le terrain, j'ai joué un titulaire.
Et dans le vestiaire, quand il te le redit, il te le dit à demi-mot.
Il me dit tout doucement. Il vient à côté de moi, il y a Rémi qui est à côté de moi, à Vercoutre, il me dit ben en fait, tu seras capitaine pour ce match. Et je lui dis non. Et Rémi, il me dit t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis non, je dis, c'est pas possible. Je lui dis je ferai mon boulot, je serai là, je ferai mon boulot de leader, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire que ce mec-là, je ne peux pas le représenter, donc je ne peux pas.
D'accord. Bon. Alors que tu as des bons rapports avec lui, Claude Puel, qui sera notre invité d'ailleurs demain. Il sera notre invité dans l'after.
Non, puis alors, il y a aussi une autre, parce qu'on est dans les anecdotes, c'est ce qui fait le sel de ce livre. C'est ton honnêteté dans toutes les situations. Parce que tu reconnais aussi, par exemple, par rapport à Claude Puel, que vous n'êtes pas forcément bien comporté, ah oui. Vous lyonnais, par rapport à Alain Perrin. C'est ce que j'aime dans ce livre, c'est ce côté très vrai. Mais, alors, tu racontes qu'à quelques mois après, je crois que tu as quitté Lyon, Claude Puel t'en rappelle pour organiser une fiesta. Ah, elle est bonne celle-là, quand même.
Elle est magnifique. Je peux pas tout dire, mais celle-ci, elle est magnifique. Ouais, je suis au Pana, je rentre, et voilà, il me dit, ça vit mal et tout. Je vais organiser quelque chose. Là, pour les joueurs, je lui dis, mais coach, je suis plus ici.
Je suis pas chef de soirée non plus. Non plus. Dans un instant, d'autres anecdotes avec Sénégo.
Ouais, l'actu et tout, parce qu'il a
c'est
plein
prévu,
de
regarde, il nous reste une bonne demi-heure.
C'est prévu.
Une demi-heure, 30, on va y aller.
Ah oui,
on va y aller. Bah, 30 minutes, c'est pas mal. 25 minutes.
Ça va être compliqué.
Allez, d'accord. Alors, on le fera pas. Stéphane Guy, Daniel Riolo, Sénégo, notre invité, à tout de suite sur RMC.
Je suis avec le coach de la Team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
L'afterfoot sur RMC avec Stéphane Guy, Daniel Riolo, notre invité Ciné Govou. Je vous conseille chaudement ce livre de Ciné. Souvent on s'ennuie, on va pas se mentir, quand on lit un livre d'un footballeur, une autobiographie ou d'un artiste aussi.
Après,
parfois.
On lit pas des livres d'un mec qui a été champion de France cette fois non plus toutes les semaines.
Ouais, qui a aussi 49 sélections, il faut le rappeler. Voilà. C'est beaucoup. Ciné Govou, édition Les Passionnés de bouquins. Gagner, ce n'est pas normal. Si vous aimez le foot, si vous aviez 10, 15, 20 ans, 30 ans dans les années 2000, vous avez rêvé le mardi soir, mercredi soir, en regardant les matchs avec des champions. Anecdote, et puis je sais pas si on aura le temps, mais Nice Now aussi, on voulait en parler quand même, le bus.
Oui.
Même si à l'actualité, on gardera 3 minutes pour en parler. J'accueille d'abord rapidement aussi un ami de l'after, supporter de l'OL, sociétaire de la Comédie Française.
Ah,
Jérémy Lopez est là dans l'after ce soir. Salut Jérémy.
Salut
Jérémy. Ça va, Jérémy? Ouais. Je t'ai vu au cinéma il y a deux jours. Voilà, je t'ai vu au cinéma dans novembre. T'es bien plus cool dans la vie que dans ce film. Je viens te le dire. Quoi.
Faut le voir novembre d'ailleurs. Ouais, tout le monde l'a vu, mais.
Alors, Jérémy, Sidney est là, tu voulais écouter l'after et tu voulais lui parler.
Il y a Jeunesse qui est là avec nous, là.
Ouais, alors, je connais pas Sidney, on a beaucoup d'amis en commun, mais je connais pas. Je jouais ce soir en tournée, là, je suis à Amiens, et je me dis, il faut que j'appelle parce que. Déjà parce que je m'ennuie et que je suis content de vous entendre, et tu vois. Je trouve que son livre est nécessaire et que ça fait du bien parce que ça correspond pas à l'époque actuelle. Et. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui sur certains points ou d'autres, en fait, c'est un livre qui est nécessaire et que je vous conseille tous à lire, et pas que les Lyonnais, puisqu'il y a un truc qui manque. Je peux parler que sur l'OL, hein, d'accord, parce que je ne connais pas les autres clubs, mais il manque quelque chose, c'est qu'il manque la transparence et dans le foot, beaucoup. Et en fait, c'est un livre ultra honnête et transparent, en fait. Il dit tout, en tout cas, ce qui est entendable. Et il fait pas le son et il dit qu'il a déconné parfois, qu'il a fait des bonnes choses parfois. Et en fait, c'est ce qui manque, quoi. Ça manque en ce moment au club. Et en fait, il y a un truc qu'il dit sur l'OL qui manque énormément, c'est l'humanité. Il dit que c'est un club qui manque d'humanité en ce moment. Enfin, c'est ce que je ressors du livre, moi, beaucoup. Et effectivement, et pour qu'il y ait de l'humanité, il faut qu'il y ait de l'humilité, il faut... un peu de transparence, en tout cas dans ce qui est un supporter est capable d'entendre aussi. Je suis pas complètement stupide, mais tu vois, de dire bah là on a foiré, là ça manque un peu, je trouve.
Jérémy, toi, c'est tes années Gerland, Govou, toute cette époque-là.
Govou, c'est Ça me fait rire parce que c'est mes années Gerland, c'est mes années boîte de nuit à Lyon. Parce que je le croisais beaucoup. J'osais pas lui parler parce que j'étais complètement fou de l'OL, mais complètement timide. Mais c'est surtout un joueur extraordinaire pour un collectif, je pense. Et pour un club comme l'OL, voilà, il a donné l'exemple. Après, il a été indispensable. Après, il le dit très bien dans son livre. Mais aussi, il parle d'une génération où, en fait, lui aussi, même si ça devait être dur pour lui, quand il est sorti de... Il est arrivé tard au club. Mais en fait, quand il est arrivé dans le groupe pro, il a pas eu le choix. Il a fallu s'adapter aussi parce qu'il y avait des tauliers. Il y avait la ville, il y avait Violo, il y avait Linares, il y avait Sony, il y avait Delmotte. Enfin bon, c'est quand même aussi, bizarrement, des joueurs qui manquent à l'OL pour que les gamins, les jeunes du centre et les autres jeunes qui arrivent, pas forcément du centre, puissent se mettre au niveau, oui, et avoir l'humilité aussi.
Sidney, voilà. tu veux réagir, répondre à Jérémy?
Non, tout d'abord, bonsoir et merci. Oui, enfin, c'est ce que j'essaye d'expliquer, mais je vois pas du tout comme une espèce de nostalgie, pardon. Je trouve, et comme je dis souvent, c'est toujours que mon avis, que c'est quelque chose qui, comme tu l'as si bien dit, qui manque. C'est-à-dire que quand tu formes un groupe, il faut faire attention aux joueurs que tu recrutes et pas seulement te fixer que sur le talent. Il y a pas que le talent qui compte, il y a le caractère du joueur. Et je trouve qu'avant, à l'époque, à Lyon, justement, Bernard était vraiment hyper important pour ça, parce qu'il arrivait très vite à juger le caractère du joueur, sans rentrer, si, en rentrant même dans la vie privée du joueur, en se renseignant qui était le mec, est-ce qu'il avait une femme, est-ce que, en fait, c'était vraiment un recrutement tant du joueur de football que de l'homme. Et je pense que ce côté humain, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est pas qu'on recrute des mauvais mecs, c'est qu'à un moment donné, tu dois recruter des mecs qui arrivent à s'entendre. Donc tu dois avoir des tauliers, peut-être un peu moins bons, mais qui doivent prendre de la place parce qu'ils ont une certaine aura. Mettre des jeunes qui sont très bons, mais tu sais que tu as l'autolier qui est capable de dire aux jeunes stop. Oui. Mettre des mecs de talent qui viennent de l'extérieur.
Et ça, c'est pas dans les datas.
Bah malheureusement non, c'est de l'humain. Et il faut y discuter avec les gens pour savoir.
Tu parles de caractère. Dans ces années-là, il y avait toujours un truc qui bloquait, mine de rien, en Ligue des Champions. Vous étiez souvent fort en poule.
Ouais.
Mais 2004... On ne s'attend pas à ce que vous perdiez contre Porto, même si après on voit que c'est une énorme équipe parce qu'elle va gagner la Ligue des Champions. Mais on est surpris. Je me souviens qu'on a un peu de surprise et vous partez favori, mine de rien. En tout cas, c'est ce qui se disait. En tout cas, pas nous, l'after n'existait pas encore. Le PSV Eindhoven, pareil. Bon, c'est un peu, on le fait encore aujourd'hui, c'est le péché du football français. Tu joues des Hollandais, t'es favori. Je ne sais pas pourquoi, puisque le PSV est un énorme club. Bon, il y a cet épisode fameux Nîmes et tout. Bon, après Milan, ok, c'est une grosse équipe. Pourtant, vous passez pas si loin
de la qualif. Hein,
mais bon, l'année d'après, il y a la Roma, où là encore, voilà, tout le monde dit Lyon est favori, et puis finalement, ça se passe très très mal. Comme si on se renseigne pas réellement sur l'adversaire, il y a toujours une espèce de prétention mal placée. Qu'est-ce qui se passait en fait? Qu'est-ce qui a fait? Pourtant, vous aviez vraiment une belle équipe. Qu'est-ce qui fait qu'il manquait tout le temps ce petit truc?
C'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, je dis souvent, c'est 3-4 équipes qui potentiellement en début de Ligue des Champions peuvent dire on va la gagner, et tous les autres, ils vont te dire ben on va essayer. Et nous, on fait partie des équipes. On va essayer. Donc forcément, il n'y en a qu'une équipe qui la gagne. Et quand on tombe, tous les matchs où on est tombé, on n'est jamais passé très loin. Mais c'est,
ouais, mais
c'est
par exemple, Porto,
très haut niveau.
Tu vois, et Porto,
je pense qu'il y a eu on est tombé sur une équipe exceptionnelle. Mais honnêtement, on ne le savait pas.
Oui, mais moi je pense
on le savait pas.
Mais ça c'est pas bien.
Voilà,
c'est pour ça que, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais Porto avait à sa tête José Mourinho.
Ouais.
Le caractère, et vous aviez Paul Le Guen. Moi, j'y peux rien, je suis obligé de dire ça. Je suis désolé.
Tu as peut-être raison à ce moment-là. Par exemple, c'est l'anecdote, c'est que Mourinho, je sais pas si à un moment, il le dit ouvertement, il vient nous voir au match retour. Enfin, il vient nous voir à un match de championnat avant le match retour. Et il avait déclaré dans les journaux, il était resté une demi-heure, il a dit, je sais comment je vais aller gagner. Grand Mourinho. Bon, mais perdu, il avait raison.
Ah oui, mais il avait réussi à donner, et par la suite, on l'a vu, il donnait quelque chose en plus à son équipe.
C'est la Ligue des Champions, ça se joue à pas grand chose.
Moi, je pense que trop souvent, vos coachs dans ces années-là, vous aviez une équipe fabuleuse, mais
ça joue une croyance.
Beaucoup de vos coachs ont été des accompagnateurs plus que de vrais.
Certainement, peut-être, tu as peut-être raison. Peut-être qu'il fallait un coach un peu plus.
Vas-y, Jérémy.
Non, mais je pense que par contre, l'équipe, le 11 de Porto, le jeu de Porto à l'époque, il était au-dessus de l'OL. Ouais. C'était moi,
pour déco. Moi je pense qu'il est devenu exceptionnel parce qu'il a été transcendé aussi par un coach. Il y avait des super joueurs, on le sait.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas de regret pour Porto. Moi, j'ai aucun regret à l'époque de Porto.
Tu sais, quand tu vois leurs attaquants, les attaquants qu'ils avaient, donc ok, Deco était un joueur hors norme, mais bon, il y avait qui? C'était Benny McCarthy. Il y avait Benny McCarthy devant et l'autre qui n'est pas devenu non plus une star. Merde.
Alenichev, il y avait
c'est ça. Oui, il y avait Raoul Merelech au milieu. Non, mais ils avaient des bons joueurs, mais pas non plus des mecs qui sont devenus des stars internationales.
Oui, mais ça, Daniel, c'est
beaucoup. Il les a emmenés avec lui. Beaucoup, il les a emmenés avec lui.
Ricardo Carvalho, Manichet.
Ricardo Carvalho, il l'a emmené à Chelsea.
Monaco en Ligue des Champions et que Monaco élimine Manchester City. Guardiola. L'équipe de Monaco de l'époque, on le sait pas en août. Par contre, en fin d'année, tu sais que c'est une équipe exceptionnelle. Et l'équipe de Porto de l'époque, c'est la même chose.
Mais parfois, un entraîneur fait aussi la diff.
Merci, Jérémy.
Avec plaisir.
J'espère qu'on a bientôt trompé ton ennui ce soir un petit peu quand même. Bonne soirée à toi.
C'est un peu normal en même temps.
Ouais, c'est joli, Amiens, je suis à côté de la cathédrale, c'est sympa, mais bon.
C'est une belle ville, Amiens.
C'est une belle ville, Amiens.
Nous n'exagérons rien, Stéphane.
Si, très très belle cathédrale. C'est au Mercure, à côté de la cathédrale, comme bel endroit.
Comme moi, j'aime toujours un peu ranger les choses. Si Amiens est une belle ville, Lyon, c'est quoi comme ville?
Magnifique. Mais Lyon, c'est magnifique.
C'est une métropole.
D'accord. Et donc, si Lyon est magnifique, Paris et Rome, c'est quoi?
Non, mais tu vois, à un moment,
il faut dire.
C'est exceptionnel.
À un moment, dans le dictionnaire, on trouvera plus de mots si vous savez pas dire les mots, tu vois.
Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a Rome et Paris.
Après, il n'y a pas au-dessus.
Après, il y a
Lyon. Il y a Alençon quand même.
Il n'y aurait pas Alençon entre Rome et Paris.
Jérémy, très vite.
Je suis obligé de rebondir. Lyon est la plus belle ville du monde.
C'est faux.
Après, t'as Paris, après, t'as Rome.
D'accord, ok, tu es obligé.
On est lyonnais, bon, je veux leur faire.
Bonne soirée à toi, Jérémy.
Allez,
à très vite sur RMC. Alors, on garde du temps, les gars, pour évoquer l'actualité avec Sydney, qui reste avec nous jusqu'à minuit. Stéphane Guy, Daniel Riello, à tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
L'after foot avec Daniel Riello, Stéphane Guy, Sydney Govou, notre invité. Son livre vient de sortir, Sydney Govou, gagner, ce n'est pas normal, bien sûr. Oui, il était à l'école à la République. C'est ça que tu disais, Stéphane.
Oui, il était à l'école,
toi, à Brive-sur-Essac. C'est normal, merci. À qui ça
bien
me plaît
sûr,
pas.
Ça me plaît aussi.
Non, mais j'ai eu un doute.
Tu crois à quelques quoi, mètres de. Quand je suis pas républicain, non mais sérieusement.
Je ne sais pas.
Mais il est sérieux celui-là. C'est bon. Si j'étais beau. Pas, tu pourrais pas travailler avec moi. C'est bien en plus.
C'est
et
tout
puis,
pour le blanc.
C'est la République et puis c'est donc très près du Mont Gerbier-des-Jean. 1500 mètres où la Loire prend son envol.
D'accord. Ouais, très près, non.
Très
non,
près d'en
je fais, non, c'est
ah
pas,
bon,
c'est pas du tout là.
C'est assez près.
C'est en Haute-Loire, moi. C'est une Haute-Loire. Bon. Le Puy-en-Velay, à côté du Puy-en-Velay.
Oui, j'ai compris. Bon, ça.
C'est loin, là, mon chat.
C'est loin, moi, j'avais déjà. J'avais dit que c'est près, alors attention.
J'invite nos auditeurs à lire les pages que tu as consacrées à l'Afrique du Sud, Naïsna, 2010, bien sûr. Bon, rapidement, j'explique. Tu dis de ce jour-là, l'affaire du bus, il me reste un grand vide. Voilà. Il n'y a pas de leader, de meneur, pas de bagarre ni engueulade. Je concède quelques échanges vifs dans le bus, mais nous nous sommes promis de ne pas en parler. Voilà. C'est le secret qui restera dans le bus.
Ouais, mais en fait, c'est passé dans le bus. Il
ne s'est rien dit
au final. Enfin, je pense que les gens imaginent plein de choses, mais c'est rien. C'est juste, ça a été mal géré du début à la fin. Cette compétition est mal gérée. Ça a été mal géré depuis 2008, depuis la fameuse demande en mariage de Raymond. Ça a été mal géré la compétition. On a été livrés à nous-mêmes. On avait une équipe de très bons joueurs, mais trop d'égo. Et pour te rejoindre, je vais être d'accord avec toi. Le coach avait peut-être certainement démissionné. Et ben, ça fout un grand bordel.
Malheureusement, la bêtise a gagné.
Ouais,
tu dis, parfois c'est comme ça.
Consigne pas respectée. Franck Ribéry ne voulait pas jouer à droite, mais à gauche. Malouda voulait jouer à gauche. Nico Anelka voulait jouer 10. Honnêtement, moi, ça m'a dégoûté parce que c'était du grand n'importe quoi. Voilà pour Naïsna. À lire ce passage également dans ton livre. Ciné, l'actualité donc.
On parle plus du livre après?
Alors juste une phrase. Non, mais après on n'aura probablement pas le temps. Juste parce qu'il y a vraiment, t'abordes énormément de choses. Il y a un truc, c'est tout à la fin, un peu comme si tu fais des thèmes comme ça et tout. Attends que je retrouve bien. Tu parles du racisme dans le football, donc ouais. Oui, tu l'as vu. Mais j'aime ta vision parce que d'abord t'es pas dans un trip victimaire, t'es pas du tout un larmoyant, c'est pas du tout ton truc. Tu parles de plein de choses et tu dis c'est une perte de temps de dénoncer les faits d'hier. Pas l'effet d'hiver, hein, l'effet d'hier, le passé.
Exactement,
toi, ce que tu veux, c'est regarder devant. Et s'il y a des choses à changer, il faut regarder devant et ne pas rester sur les choses qu'ont pu blesser dans le passé. Quoi.
Mais parce que il faut s'en servir. Ça a blessé des gens, donc faut pas l'oublier, faut pas l'occulter. Mais il y a une chose, c'est que selon les générations, il y a des éléments de langage, pardon, qui sont différents sur les générations. On pouvait se permettre de dire certaines choses il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. que bah aujourd'hui tu te rends compte que c'est plus possible. Donc on va pas se battre sur ce qui a été dit avant, parce que moi j'ai connu le racisme à un moment donné, et oui, il y a des choses qui m'ont même, peut-être j'en ai même souri moi-même, mais c'est pas bien. Mais aujourd'hui je peux le dire ouvertement, c'est pas bien. Maintenant ce que je veux, c'est que ce qui est devant nous, que ça change.
Et tu parles, des noirs au poste à responsabilité.
Tu parles d'un manque de représentativité dans les instances.
Non, mais qui est indéniable. Après, souvent, on se dit, mais est-ce qu'il y a des candidats qu'on a refusés? Et ça me ramène à un texto. Jérémy, qui n'a pas eu le temps de te le dire, qui était là, il dit, il dit, j'ai oublié de lui dire, son livre ressemble à une candidature affirmée d'entrer dans un club. Il faut qu'il le fasse. Est-ce que justement, t'as envie de ça?
Je sais pas si j'en suis capable. Si je pense que je peux avoir un rôle à jouer. Maintenant, je suis pas carriériste de ce côté-là. J'aime parler, j'aime discuter, j'aime échanger, j'aime donner mon point de vue, mais je sais pas me vendre. J'ai un pote qui me dit souvent, tu sais pas te vendre.
Non, mais pardon, Vieira a tenu un petit peu ce discours, mais Vieira, il a été entraîneur, il est encore entraîneur. Il est reconnu, tout le monde.
Je constate les choses, je regarde autour de moi, je regarde que quand tu regardes une équipe de foot, il y a beaucoup de diversité, diverses et variées. Je regarde
sur le moment terrain, mais pas au terrain.
Ouais. Ouais. Et quand je vois, dans les quartiers, il y a une phrase qui m'a choqué d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Je sais plus qui dit, il dit un entraîneur maghrébin, oui, vous faites du bon boulot. Soit disant, vous faites du bon boulot en bas. Tu vois, ça, je pense que quand il le dit, cette phrase-là, il ne s'en rend pas compte. Et pour moi qui suis noir, ça veut dire, oh, tu fais du bon boulot là.
Tu vois un peu de condescendance, en fait.
Pour moi, c'est
ce dont tu parles.
Mais c'est, comme ça a été dit, parce qu'il faudrait
avec le ton,
il faudra le ton de la phrase, voilà, parce que vous faites du bon boulot, tu veux dire quoi?
Non, tu fais du bon boulot avec ces jeunes-là, toi t'es bon, c'est la façon dont c'est dit, parce que toi tu peux pas le voir de cette manière-là. Quand t'es black ou quand t'es rebeu, tu le vois de façon différente. Et ça, c'est indéniable.
Oui, écoutez, vous faites du bon boulot parce que t'es un rebeu qui s'occupe des rebeux.
Voilà, c'est ça.
Mais le problème, c'est que le foot français a beaucoup fonctionné comme ça.
Mais c'est pas bien.
Mais attention, il faudra voir aussi dans les années qui viennent, si malheureusement, parce que ça, je suis d'accord avec toi que ça a existé. Tu parles aussi des choses que moi j'ai maintes fois dénoncées, les prototypes, le black grand, en défense et devant, le grand et tout. J'ai dénoncé ça depuis 10 ans maintes fois. Mais il faudrait voir si dans l'avenir, malheureusement, la réponse qui serait terrible, c'est de s'enfermer dans un communautarisme.
Mais il faut pas.
C'est un des problèmes où on dirait finalement, pour gérer une équipe de banlieue, il faut que ce soit un mec de banlieue ce serait terrible. Et je crois malheureusement qu'on en prend le chemin.
Je vais te dire une chose très rapidement. J'ai passé mes demandes d'entraîneur. Tu passes ton BEF. On est à 80% d'immigrés, des métis, tout ce que tu veux. Tu passes ton DES, c'est l'inverse. Donc, il y en a, entre-temps, je ne sais pas où ils sont, ils se sont égarés. Et quand tu sais que le passage du DEF au DES, c'est-à-dire que c'est une sélection, tu viens, tu poses ton dossier, c'est facile, tu discutes avec la personne. Donc, ça veut dire que sur une génération, tu es passé de 80-20 à l'inverse, 20-80. Il y a quelque chose que je maîtrise.
C'est-à-dire qu'il y a un racisme systémique, voilà.
Je veux pas dénoncer,
surtout pas dans le football, c'est pas ça, parce qu'on est en train d'installer justement quelque chose qui pourrait être bien plus terrible dans certains quartiers. Il faut surtout pas tomber là-dessus. Il faudrait juste pouvoir évoluer sur l'idée des compétences
et pas sur
l'appartenance ethnique ou couleur. Ça c'est le grand mal.
Bien sûr.
Et si la réponse, parce que justement ce qui me plaisait dans le propos de Sydney, c'est de ne pas regarder derrière, mais d'essayer de changer les choses. Et changer les choses, si la réponse, c'est le communautarisme, alors là, on n'aura rien gagné du tout. Quoi.
Non, mais moi je ne suis pas du tout comme ça.
Je souligne que toi, tu ne veux pas.
Tu passes un examen,
la compétence avant tout. Voilà.
Il y a une note, les 20 premiers sont pris, c'est fini, on n'a pas
ça. Exactement.
Tu dis aussi dans ton livre, les joueurs sont bêtes, entre guillemets, dans la compréhension du football. Ils représentent 90% des cas. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité.
Aujourd'hui, le footballeur moderne, il n'est pas forcément le plus intelligent tactiquement. Je vois des aberrations tactiques sur les terrains de foot et des fois, je me dis, alors techniquement, c'est meilleur. Physiquement, certainement encore meilleur. Ça court plus vite, ça va plus haut, tout ce que tu veux. Mais tactiquement, quand tu regardes un match de foot actuellement, il y a des grands vides.
Allons vite également sur le PSG rapidement avant d'évoquer la Super League. T'es pas fan de la version Qatari du Paris Saint-Germain. Pourquoi?
En fait, je suis pas fan parce que c'est pas ce que j'ai connu. Après, naturellement, je parle souvent avec mon fils parce que mon fils joue au foot, il adore. Mais c'est normal. C'est que moi, j'ai
le droit. Il est pas supporter à l'OL?
Ah, si, si, il est supporter de l'OM. Ouais. Il est supporter de Neymar, pardon, c'était un peu.
Ah, de Neymar.
Bah, il change, il a changé.
Bah, faut lui expliquer.
Non, si maintenant, il a changé. Maintenant, il a
faut
changé.
Lui expliquer que c'est pas quelqu'un de bien.
Maintenant, il a changé. Maintenant, il a changé.
Il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer qu'un champion, ça doit aussi être un homme bien.
C'est un gamin, il est.
Bah, et justement, parce que c'est un enfant.
Je lui ai montré des vidéos de Gabi quand il avait 13 ans. Je lui ai dit, voilà, c'est ce que tu dois devenir. Aujourd'hui, en plus.
De Gabi,
ouais,
Gabi.
Quand il avait 13 ans, qui fait un entraînement, enfin, un match.
Qui, Gabi?
Gabi, quoi, de Barcelone?
Ah, Gabi. Gabi.
J'ai montré une vidéo.
Chabi, Chabi ou Gabi de maintenant, le
Gabi maintenant.
Ah, Gabi,
le très bien, il fait un tournoi et il dit à mon fils, regarde. Ça, c'est bon.
Ça, c'est vrai. Par contre, juste un mot sur Galtier, parce que tu l'as bien connu, parce qu'il était l'adjoint de Perrin, et ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est quand même lui qui, au quotidien, à peu près, mettait l'équipe en place. Est-ce que tu crois que Galtier est l'homme de la situation pour Paris, comme entraîneur?
Alors, je pense que oui, mais surtout, je pense que Paris, c'est un. Il n'y a pas d'homme de situation. À Paris, je ne vois pas. Ouais,
donc, en fait, c'est une réponse oui, mais non, en fait.
Non, mais alors. Parce que je n'aime pas dire que Galtier n'est pas un bon entraîneur, parce que c'est un très bon entraîneur. Oui. Mais non, mais Paris, il n'a pas besoin d'un bon entraîneur.
À Paris, ce n'est pas la question.
Paris, en fait. il a besoin de changer.
Il est très bon manager aussi, quand même.
Non, de Paris change.
Paris, il a besoin d'un président en priorité.
Déjà, surtout. Et quelqu'un qui soit présent, pas une fois par mois.
Enfin, il y a la Fédération Française de Foot qui a besoin d'un président, l'UEFA qui a besoin d'un président, la FIFA qui a besoin d'un président, le PSG qui a besoin d'un président. Et puis on pourra continuer la liste longuement.
Moi, je suis disponible pour au moins 3 des 4 postes.
Tu prends lequel en priorité?
Excuse-moi, si Nasser Al-Raifi peut occuper 20 fonctions, je peux
aussi,
occuper 3.
Moi aussi, je peux. Là, je peux dire sans problème, je peux.
S'il faut choisir.
Parce que si vous filez le budget, réfléchissez à ça ce soir en vous couchant, filez à Nasser Al-Raifi le budget du Puy-en-Velay ou d'Alençon, ou pour être plus sérieux, si vous filez le budget de Guingamp à Nasser Al-Raifi, Guingamp est en région d'Alune. Hein.
C'est possible.
Ou de Chassé,
jamais plus haut.
Jamais plus,
par exemple.
C'est pas faux.
On parle de Ligue fermée, j'allais dire, de Super League aujourd'hui.
Justement.
On a appris que la Super League s'est dotée d'un PDG. Aujourd'hui, c'est un Allemand qui s'appelle Bernd Reichardt, ancien patron du groupe de médias RTL. C'est la preuve, la confirmation, s'il en fallait encore une, que la Super League n'est pas morte. Loin de là.
C'est pas
je rappelle que
c'est
le 15 décembre.
De l'avoir dit, je n'arrête pas de le dire. Je vous informe sur le sujet.
Je rappelle d'ailleurs que le 15 décembre, la Cour de justice de l'Union européenne décidera si oui ou non l'UEFA abuse de sa position, use de sa position d'abus dans l'organisation de ses compétitions, deux coupes d'Europe
qui
notamment.
Ouvrira une porte.
On sera le 15 décembre.
Compétition concurrente. Donc pour répondre à Sidney, parce qu'il en parle dans son livre.
C'est 15 décembre.
15 décembre, après la Coupe du Monde.
Tu en parles. C'est tout ce que tu dis sur l'évolution du foot. Je suis d'accord sur la notion qu'ont les jeunes maintenant de l'individualisme. Ça, c'est passionnant. Sur la ligue fermée, je te rejoins aussi, évidemment, parce que je crois que personne veut d'une ligue fermée. Maintenant, pour faire là, pour le coup, de l'information, la création de ce poste aujourd'hui, ça en dit long sur ce qui est en train de se passer. Il y a une structure qui a été mise sur pied avec un président, le PDG. Ça veut donc dire quoi? Que non seulement le projet existe encore, que certes, il y a 3 clubs phares, Barça, Real et Juve, qui le soutiennent, mais que les autres sont tous ouverts au dialogue. Et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'important. C'est qu'un courrier a été envoyé à l'UEFA et l'UEFA a répondu. Alors qu'a priori, on aurait, au vu de tout ce qui s'était passé ces derniers temps et des réactions très énervées de Seferin, moi, je m'étais dit, au moment où le recommandé va arriver, Seferin va le mettre à la poubelle.
C'est qui Seferin?
Le président de l'UEFA.
Ah, l'ami de Nasser Al-Raifi, moi. Je comprends plus rien.
Il a répondu qu'il allait recevoir Reichardt. Et que donc il était prêt à parler. À partir du moment où il ouvre cette porte-là, c'est qu'il pense probablement que la guerre est inutile et que faire la guerre, ça ne mènera nulle part, surtout si la décision européenne va pas dans le sens de l'UEFA, ce qui a quand même de grandes choses d'arriver. Le nouveau projet qui sera présenté à peu près tous les présidents de clubs qui vont recevoir ce PDG, c'est une ligue ouverte à 100%. Donc c'est un changement du tout au tout par rapport à la première mouture qui a été rejetée par tout le monde. C'est donc des clubs qui veulent reprendre en main beaucoup de choses dans le contrôle de la compétition. C'est en fait redessiner le football européen, ça c'est certain, c'est toujours ce projet-là. Certes, évidemment, les raisons financières sont capitales dans ce dossier, mais le fait que l'UEFA n'ait pas renvoyé le courrier et dit « Ok, on va discuter », ça dit quoi? Ça dit soit ils refont la fameuse histoire qu'on a vue maintes fois à l'époque du G14 des années 90 ou même Ola Salé à l'époque, et c'est-à-dire on va discuter, peut-être que l'UEFA continuera à mettre son tampon sur une compétition qui ne sera peut-être pas celle la fameuse réforme qu'ils nous ont présentée, le format suisse
pour 2024.
Parce que le projet, tous les projets sont 2024-2025. C'est demain, hein, c'est très rapide. Hein. Donc soit il ouvre la porte et il trouve peut-être, je sais pas, un nouveau terrain d'entente pour redessiner le football européen, soit la porte ne s'ouvrira pas. Et si la décision de justice va dans le sens de, alors, on a le droit de créer une compétition concurrente, là oui, il va se passer quelque chose, parce que il y a beaucoup de clubs, et pas uniquement les trois qu'on a l'habitude de citer, mais beaucoup risquent d'être sensibles. Et s'il n'y a pas, nous ne quittons pas la compétition nationale, et ça n'est pas une compétition fermée, il y a quand même de grandes chances que ça aille au bout.
Bon, précision, rectificatif, le 15 décembre, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne rend un avis consultatif, décision en mars 2023.
Absolument.
Voilà, pour être très clair.
Déjà, le 15 décembre est une date intéressante et importante pour nous tous.
Absolument.
Pour nous tous. Tu voulais réagir, Sidney ?
Non, je trouve que c'est la suite logique de ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne peux pas investir autant d'argent dans le football et de pas avoir de rendu, parce qu'un club de foot, ça coûte de l'argent, t'en gagnes pas. Et quand je vois, comme je dis dans le livre, les Américains qui arrivent de plus en plus, il y a un côté business, et que aujourd'hui, les Coupes d'Europe ne leur apportent rien au final, à part en termes d'image, mais ils veulent faire de l'argent. Donc la suite logique, voilà, c'est avoir des gros matchs chaque week-end, et ça passera forcément par ça. Enfin, je le dis, je pense que ça pouvait pas être autrement. Le foot doit évoluer. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Aujourd'hui, on ne sait pas si on part plutôt sur quelque chose où les matchs seraient en semaine et le week-end serait consacré au championnat national.
Sous quelle forme? Qui va rentrer dans cette ligue, par exemple? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que c'est une ligue ouverte? Mais une ligue ouverte.
Une ligue ouverte où les premiers
de championnat.
De championnat vont y aller. Si par exemple l'Atalanta termine 2 en Italie, c'est eux qui iront.
Ouais, j'ai un peu de.
En fait, ce sera plus comme un championnat, mais la formule.
Un deuxième championnat.
Mais en fait, Richard a dit, on va aller voir les clubs pour discuter. Nous ne voulons pas de la nouvelle formule suisse, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en veut de cette formule, parce que c'est vraiment pas bien. Et personne veut de la ligue fermée. Donc, il va falloir trouver un terrain d'entente pour qu'il y ait plus de revenus, pour que ça ressemble à un mini championnat, donc avec plus de matchs. Donc, probablement, avec si c'est des poules de 10,
qu'on se rend très 4 bien qualifiés, 4 années. On se rend compte que le vendredi soir, Ajaccio PSG, ça ne nous intéresse pas.
Exactement.
Voilà. Mais ça, faut être lucide.
Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus l'admettre. Voilà. Qui ne veulent pas admettre une évidence.
Ils vont être valeureux ou faire ce qu'ils veulent. Si vous voulez qu'en termes de moyens, il faut que les clubs qui ont les mêmes moyens jouent dans la même.
Oui, mais s'il arrive une fois sur 15 que Ajaccio crée l'exploit face au PSG,
oui,
ça aura de la saveur aussi et de la valeur. C'est possible.
Ouais, mais est-ce que le foot aujourd'hui peut se contenter d'un plaisir sur 15?
Il faut des gros matchs
philosophiques. Et si à côté tu t'ennuies trop souvent, comme c'est le cas avec les matchs de championnat du PSG, tu vois?
Merci Sidney, c'était un plaisir. Je rappelle ton livre qui est sorti hier. Sidney Govou, vous gagnez, ce n'est pas normal, avec la collaboration d'Edouard G. Alors, plus de commentaires positifs sur Direct Studio. La grande classe de Sidney, pourtant, qu'elle nous a fait souffrir leur hégémonie lyonnaise. C'est un supporter stéphanois qui le dit Vincent. Vous avez dit, Sidney Govou est un super mec. On s'est régalé pendant 2 heures à écouter Sidney Govou. Très belle vision du football. Et puis, question également, Sidney est-il fier d'être dans FIFA 2023 en tant que légende?
Mon fils est très fier. c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel.
Je crois qu'il y a une semaine, mon fils est venu me voir. Il me fait, papa, Govou là, il était vraiment fort.
Et oui,
parce que je le vois dans les légendes et tu m'en avais jamais parlé.
L'arrêteur quelle année Sidney de jouer?
2014,
déjà 8 ans.
Très rapidement, une question pour qu'on puisse avoir des reprises sur les autres médias. Si l'OL t'appelle demain, t'y vas?
Si il m'appelle demain, j'y vais. Sous dépend ce qu'on me demande de faire.
C'est pas une vraie réponse pour qu'il y ait une reprise dans les médias.
C'est terrible ça. Nous on veut que l'équipe l'AFP reprenne ce soir, tu vois.
S'il m'appelle demain pour me dire, tu viens avec nous, on discute. Ouais, non, on se marre. Non, je ferai ce que je
me sentirai utile. Et si Laurent Blanc t'appelle, demain, viens, t'es le coach des attaquants.
Il y en a déjà un, c'est Ludo.
C'est terrible, c'est vrai, il y a
Ludo. C'est déjà Ludo.
Ouais, surtout si Laurent Blanc l'appelle, c'est surtout t'es dispo pour un 18 trous.
Je sais pas jouer au golf.
Sidney Govou, Sidney d'ailleurs en hommage à Sidney Poitier, c'est le choix de tes parents, c'est ça.
Premier Oscar.
Ah, ça je savais pas.
Ouais, c'est un acteur.
Incroyable.
Magnifique.
Tes parents étaient cinéphiles?
Je pense pas beaucoup, mais en Afrique, il avait marqué les esprits, donc c'est pour mes
supermes poitiers. Merci Sidney, merci Daniel.
Et tiens, un dernier mot, parce que je suis pas sûr qu'il en parle dans le livre, mais je le sais de sources sûres, évidemment. Les engagements humanitaires. terre de Sydney parce qu'il en a aussi. Ils sont des vrais engagements. C'est pas des engagements comme font beaucoup de. Voilà, il va au plus près et il fait pas de publicité là-dedans. Je comprends pas que t'en parles en droit d'ailleurs.
Non, parce que c'est pas le lieu. C'est pas.
Mais ça donne aussi une idée de l'homme qu'il est. Voilà.
Bon, et si Sydney, tu veux rester plus longtemps avec nous, hein, tu signes un contrat à RMC, on te prend à la
terre. Très bien, Canal Plus.
Tu seras encore mieux ici, sache-le. On paye beaucoup
trop cher. Il est trop cher.
Merci d'avoir écouté La Hauteur. Merci à tous.
Ciao.
RMC, l'After Foot.